Radio Bocage à Moulins 96.5.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bocage 96.5 FM, la radio libre et laïque de la Ligue de l'Enseignement, et cela depuis 1983. En cette journée du mercredi 17 décembre 2025, Bocage Info, votre émission d'information. Hier s'est déroulée une conférence de presse au Marinier, place Jean Moulin, avec une nouvelle déclaration de candidature pour les élections municipales 2026. Après les annonces officielles de candidature pour le centre et la droite de Dominique Darnay et de Benoît Fèvre, pour l'extrême droite de Pierre de Nicolaï et pour la gauche du député communiste Yannick Monet, c'est au tour de Thierry Bonnet, adhérent La France Insoumise, de déclarer sa candidature à la tête de la liste Moulin en commun, des projets en partage. Une liste de la gauche de rupture, ouverte et non partisane, malgré le soutien de La France Insoumise. On écoute tout de suite Thierry Bonnet, moulinois depuis 50 ans, père de deux enfants et cadre de la pénitentiaire.
Radio Bocage.
Élection municipale, je suis avec Thierry Bonnet. Thierry Bonnet, bonjour.
Bonjour Farid. Alors je m'empresse à dire à tes auditeurs que je m'autoriserai à te tutoyer, parce qu'à la croisée des chemins sur Moulins, on est appelé à un peu tous se connaître et on a eu pas mal d'espace à déjà se rencontrer et à échanger. Donc voilà, j'ai apporté cette précision.
Pas de souci, ça permet, de toute façon, on est une radio locale, voilà. Et ça y est, c'est officiel, bah du coup, suite à la décision d'Yannick Monet de partir de son côté, voilà, avec tes colistiers, vous avez décidé de faire votre liste et de partir pour ces élections municipales 2026 qui sont à moins de 100 jours déjà.
C'est ça. C'était d'autant plus quelque chose de soucieux parce qu'effectivement, par définition, si on parle de politique politicienne et qui quelquefois peut un peu fatiguer nos concitoyens, il arrive que quelquefois peut y avoir des distensions, des choses qui du national se reportent au local. Et c'est vrai que une gauche unanime n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, alors que si on parle purement sur une stratégie classiquement politique politicienne, il était d'un intérêt de se dire la droite n'est jamais partie autant fracturée et là il y avait peut-être quelque chose à jouer. Après, moi je considère que désormais, et c'est ce qu'on s'est dit avec mes collègues et mes colistiers, maintenant il faut dépasser cette question et clore le débat sur ces enjeux de stratégie, mais vraiment se recentrer ce pourquoi on fait une élection municipale, c'est-à-dire l'intérêt des électeurs et surtout, par définition, nos concitoyens moulinoises et moulinois. Et c'est pourquoi on a fait le choix de se lancer avec une liste qui s'appelle Moulin en commun, des projets en partage, parce que au-delà du fait que moi-même je suis estampillé LFI, ça reste une liste ouverte de toutes les bonnes volontés, au-delà qu'effectivement on ne renie pas notre positionnement de gauche de rupture, mais ça dépasse largement ça, où il s'agit de réunir le maximum de bonnes volontés pour co-construire un programme, parce que ça, c'est notre méthode, c'est notre volonté.
Alors, une nouveauté de ces élections municipales, c'est que l'extrême droite, il y a quatre listes à droite. Bon, il y en a une qui n'a pas encore officiellement déclaré, mais elle ne saurait tarder. Deux listes, du coup, à gauche. Lutte ouvrière, d'après nos informations, sont en cours de préparation, ça ne devrait pas tarder. La nouveauté, c'est qu'il y a l'extrême droite qui est à Moulins, avec une liste officielle Union des droites.
Oui, en ce sens où, en même temps, je pense que c'est pas une surprise, parce que de par le passé, il y a eu déjà pas mal de tentatives. On voit bien qu'il y a eu un effet un peu vaste communicant entre la dédiabolisation du RN et, pour le coup, la LFI a été un peu repeint et diabolisé à son tour. Et n'oublions pas aussi le côté un petit peu, alors le terme est à la mode en ce moment, mais d'entrisme de l'extrême droite par des supports tels que la culture. Et de ce point de vue-là, on a une position assez claire sur les enjeux qu'il peut y avoir autour de Murmures de la Cité et tout ce qui gravite autour de ce genre d'action. Et nous le voyons bien aussi, la droite classique au national, et je ne sais pas ce que ça donnera au local, parce qu'il y a toujours les enjeux de second tour, en tendance, ils auront peut-être tendance à se rapprocher au même titre que du national. Mais ça, encore une fois, nous, l'enjeu maintenant, c'est vraiment être au service des citoyens au-delà de cette cuisine-là, sachant que, bien évidemment, je ne partage absolument pas les principes et les valeurs du RN.
Alors justement, la diabolisation du RN, en ce moment on a l'impression qu'au niveau médiatique, au niveau national en tout cas, et surtout via le groupe Bolloré, le Front Républicain n'écoute parler contre LFI. Comment changer cette image au niveau local, on sent que LFI est très implanté dans les grandes villes avec, voilà, avec les universités, et c'est vrai que dans les petites villes comme les nôtres, beaucoup moins implantées, mais comment changer cette image par rapport aux électeurs qui votent à gauche classiquement?
Tout simplement en cessant justement de toujours présenter l'étiquette l'étiquette, l'étendard, non pas qu'on le renie, encore une fois, mais en donnant à voir qu'on est des gens sérieux, qu'on réfléchit, qu'on présente des solutions. Nous, notre logique, c'est qu'on ne peut pas simplement dire on fait participer le citoyen ou on le consulte. Nous, on considère qu'il doit avoir non seulement son mot à dire, mais être force de proposition et pouvoir voir aboutir des projets qu'il propose. Un exemple, nous, on aimerait mettre en place le référendum d'initiative citoyenne municipale. C'est un dispositif, si les gens se souviennent, qui avait été revendiqué au national par les Gilets jaunes, qui permet à tout acteur de la cité, pour le peu qu'il soit inscrit sur les listes électorales, de proposer un projet, alors évidemment en face avec un cahier des charges pour pas que ce soit des propositions qui puissent être farfelues et sérieuses. Et si au niveau d'un référendum et à partir d'un certain pourcentage des électeurs valident cette proposition d'un de leurs concitoyens, eh bien du coup la municipalité réaliserait ce projet. Dans la foulée aussi, puisque ça se fait dans d'autres mairies et pas forcément des mairies, alors c'est plutôt des mairies de gauche mais c'est pas systématiquement le cas, nous aimerions par exemple, mettre en œuvre ce qu'on appelle le budget participatif, c'est-à-dire qu'une partie du budget de la municipalité aurait une enveloppe réservée, là aussi pour des projets présentés par des citoyens, et si ce projet recevait une validation, eh bien là aussi cette enveloppe servirait à financer la proposition. Au même titre, je ne l'avais pas évoqué en amont de cette interview quand on le préparait, mais peut-être aussi, par exemple, un droit de regard sur la répartition des subventions qui sont faites chaque année au regard des associations, des structures qui sollicitent la municipalité ou des cofinancements. Ça nous paraît important que, par exemple, alors on va dire que je suis un peu cruel, mais qu'on puisse se dire, là on va plutôt aider le caritatif type Resto du Cœur et peut-être réduire l'enveloppe du foot. Alors j'ai rien contre le foot, mais c'est pour donner un exemple, quitte à ce qu'il soit un peu caricatural. Et enfin, parce qu'il n'y a pas que la question de la participation de cette nature-là, il y a aussi le fait que nos concitoyens, pour 24% d'entre eux à Moulins, et ça on a du mal à l'imaginer, vivent à 24% en dessous du seuil de la pauvreté, dont la moitié de ces 24% se concentrent beaucoup dans les quartiers dits populaires, quartiers sud entre autres. Et même dans ces quartiers, vous avez des propriétaires à hauteur de 30% de ce même volume qui s'avèrent être des personnes en difficulté et en précarité. Donc nous, on a deux pistes. C'est véritablement proposer une maison des solidarités parce que le CESAM, malgré toute sa bonne volonté, et le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, commence à trouver un peu ses limites tellement il y a des enjeux à devoir gérer. Donc une véritable maison des solidarités, ou alors à la fois on aurait un guichet unique d'orientation des gens qui viendraient solliciter de l'information ou de l'aide, et en même temps de la prestation directement sur place. Par exemple, on pourrait très bien réfléchir, ne serait-ce qu'avec l'association Mobile Emploi, la mobilité des gens qui sont en difficulté pour trouver un travail, pour garantir la garde de leurs enfants, pour les emmener à la crèche ou chez une nounou. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans une idée de solution et pas simplement de constat. Pour les gens qui sont en rupture de banc au regard du chômage et plutôt longue durée, on aimerait associer la mairie sur quelque chose qui s'est développé sur plusieurs territoires. C'est ce qu'on appelle les territoires zéro chômeur. Alors ça paraît ambitieux, mais en fait, à l'exercice un peu plus volumineux que ce que ne fait actuellement Isatis en tant que régie de quartier, c'est à peu près le même principe, mais poussé à plus loin à l'échelle d'une ville, d'identifier des secteurs où des travaux ne se font pas, envoyer des gens en difficulté de long chômage avec effectivement un financement municipal, entre autres, et on se rend compte, et j'invite les gens à aller chercher sur internet, que ce système-là, même si ça passe par des fonds publics, revient au final moins cher que de passer par l'allocation chômage. Donc vraiment une notion de pragmatique face aux problèmes qui se présentent. Alors il y a un autre sujet, parce que je sais qu'il est très soucieux, parce que on a eu une recrudescence, et je, malheureusement, heureusement par ma formation, j'y suis sensible, c'est la question de la délinquance, de la sécurité. Alors nous, on a un biais un peu différent, on parle de sûreté et de tranquillité publique. Un des premiers axes qu'on voudrait réfléchir, c'est comment bien faire en sorte qu'il y ait une réelle complémentarité entre la police municipale et la police nationale, que chacun dans ses tâches sache bien la délimitation de son champ d'action, la police municipale n'ayant pas à se substituer au national, alors évidemment on n'a pas de levier sur le national, et aussi peut-être réinterroger la vidéo protection ou surveillance selon, puisque les chiffres sont un peu difficiles à trouver, mais sur la mandature, la dernière, si je ne dis pas de bêtises, mais on vérifiera, il doit y avoir 640 000 à presque 1 million d'euros qui ont été engagés. Et là, non pas qu'on a à contester la vidéosurveillance, même si elle a une limite de résolution des affaires, c'est peut-être traduire ça plutôt par de l'équivalent temps plein et des gens qui battent le pavé. Nous, on voudrait renouer avec trois choses qui sont très importantes. C'est la prévention, alors ça peut être de la médiation, ça peut être de la maison de quartier, de la sensibilisation dans les écoles par le PRE, par exemple, hein, le plan de redynamisation éducative. C'est de fait la sûreté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut que le coup de bâton tombe hein, quand les gens commettent des exactions. Et le troisième pan qu'on oublie beaucoup, souvent, parce qu'on l'a connu autrefois à Moulins avec l'îlotage, c'est le renseignement. C'est comment on peut observer dans sa ville ce qui risque de s'y tramer et de s'y passer pour anticiper, mais aussi l'îlotier qui peut dire, je sais pas, moi, un papa, dis donc, j'ai vu ton fils l'autre jour là qui traînait avec Tartampion, il faudrait peut-être que tu fasses attention. Donc voilà, c'est vraiment une vision globale, systémique de solution des différents sujets. On réfléchit par exemple au titre de l'urbanisme, sur la collecte des poubelles qui est un véritable problème. Alors j'ai vu M. Darnay qui en témoignait sur son Instagram, très bien, mais tout de suite il crie à l'incivilité, ce qui est sans doute le cas pour certains. Mais d'un autre côté, si la collecte en amont n'est pas réfléchie, y compris pour les commerçants, on en arrive à des choses où vous avez des poubelles sur la place d'Allier en même temps que les estivants regardent le mapping sur le Sacré-Cœur, ce qui fait un peu désordre pour une belle ville comme la nôtre.
Donc Thierry, comment va se dérouler la campagne? Du coup, il y aura des réunions publiques, des ateliers pour que des gens vous posent des questions, travaillent ensemble?
Oui. Alors évidemment, on a un petit peu de retard parce que nous, on est un peu plus artisanal, entre guillemets. Mais l'idée, c'est ça, c'est des réunions publiques. Autrement, je profite de l'antenne pour dire qu'on a créé une boîte structurelle qui s'appelle Moulins en commun. @gmail.com. Donc toutes les bonnes volontés, y compris à vouloir s'associer à la liste, peuvent nous rejoindre là-dessus. Et on va lancer un questionnaire que j'évoquais, je crois, tout à l'heure, qui va être le début de campagne, où en fait on interroge sur toutes les différentes thématiques qu'on a pu déjà évoquer, différentes questions fermées et ouvertes pour que les Moulinois puissent s'exprimer sur leurs attentes. Ce questionnaire donnera lieu à une exploitation, parce que c'est en plus un système où on peut faire de la statistique, par exemple, voir à peu près les catégories socio-professionnelles et autres, et ça viendrait alimenter le schéma du programme, sachant que ce que l'on espère, c'est que la liste et le programme lui-même soient diffusés, on va être optimiste, fin janvier, puisque officiellement, les candidatures doivent se poser à compter du 6 février.
Eh bien, merci Thierry Bonnet, je rappelle, tête de liste de Moulins en commun, des projets en partage.
Merci beaucoup de ton accueil, et encore une fois, je fais un appel à tous ceux qui seraient sensibles par notre démarche. Merci à tous les auditeurs, et passez une bonne journée.
Radio Bocage.
Merci de votre fidélité, restez à l'écoute de Radio Bocage 96.5 FM, votre radio libre et laïque d'information locale, et cela depuis 1983.
Radio Bocage à Moulins 96.5.